En direct 2, unité 1, Franco-Tour. Où loger? Partie B, cahier page 5.
Parmi les lieux d'hébergement présentés à la partie A, identifiez celui qui serait le plus adéquat pour chacune des personnes suivantes.
1. Si je pouvais choisir n'importe quelle vacances, je choisirais d'aller là où il n'y aurait ni bruit ni pollution. J'éviterais complètement la vie trépidante de la ville. Je prendrais une chambre là où je pourrais respirer l'air de la campagne et même m'occuper des animaux.
2.
Pour moi, organiser un voyage idéal serait très facile. Je paierais n'importe quel montant d'argent pour une chambre luxueuse, confortable et intime. J'irais aussi à un endroit où il y a une piscine intérieure et un très bon restaurant.
3.
Pendant les prochaines vacances d'été, j'aimerais beaucoup m'immerser dans un milieu francophone. J'aimerais pouvoir participer à tous les événements quotidiens d'une famille. Si je pouvais réaliser ce rêve, mon français s'améliorerait sans doute et je me ferais de nouveaux amis.
4.
Ce qui serait idéal, ce serait un endroit où je pourrais rencontrer des gens de toutes les nationalités. J'aimerais aussi me sentir en sécurité sans avoir à dépenser trop d'argent. Cependant, l'intimité, pour moi, ce n'est pas une priorité.
5.
J'aimerais voyager, mais j'ai très peu d'argent. Cependant, j'aime la vie en plein air et je suis sûre que je pourrais m'accommoder d'un confort très rudimentaire.
6.
Moi, si je partais en voyage, je chercherais un logement confortable, mais pas trop cher. Je ne choisirais pas de rester dans un grand hôtel parce que je n'aime pas leur caractère impersonnel. Mais je voudrais quelque chose d'intime.
7.
J'ai fait une demande d'emploi pour l'été dans une ville qui se trouve assez loin de chez moi. J'aimerais trouver un logement où mon indépendance et mon intimité seraient assurées. J'aimerais cependant rencontrer d'autres étudiants et étudiantes. Il ne faudrait pas que ça me coûte une fortune. Je voudrais revenir chez moi avec quelques sous.
6. Cahier, pages 6 et 7.
Sur votre feuille d'activité, lisez les commentaires que des gens ont faits à la suite d'un voyage. Écoutez les suggestions suivantes de l'agent de voyage et trouvez la suggestion qui correspond à chaque commentaire.
Dialogue numéro 1.
1. Tu aurais dû mettre de la crème solaire et porter un chapeau. Tu n'aurais pas dû t'étendre sur la plage.
2.
Tu aurais dû coucher dans des gîtes, des auberges de jeunesse ou même faire du camping.
3.
Tu aurais dû faire quelques visites organisées.
2.
1. Tu n'aurais pas dû aller en Louisiane en juillet. Tu aurais plutôt dû y aller à l'automne.
2.
Tu aurais dû aller dans un hôtel où on organise des activités pour les résidents.
3.
Tu n'aurais pas dû aller dans une auberge de jeunesse. Le camping, les gîtes et les hôtels offrent plus d'intimité.
Dialogue numéro 3.
1. Tu aurais dû aller dans les Alpes françaises au printemps au lieu d'en janvier. Il fait souvent moins froid.
Deux.
Tu n'aurais pas dû faire partie d'un voyage organisé. Tu aurais dû y aller seul ou avec quelques amis seulement.
Trois.
Tu aurais dû faire plus de recherches avant ton voyage. Il y a beaucoup d'économies à réaliser quand on planifie un voyage bien à l'avance.
Autre pays, autre coutume. Livre, page 11.
Écoutez les commentaires ou les réactions suivantes et trouvez quelle coutume n'a pas été respectée dans chaque cas.
1.
À la place de Marie, je n'aurais pas mentionné à mon hôte qu'il possédait une belle sculpture dans son salon.
2.
Il n'aurait pas dû se servir de ses doigts pour manger les mets chinois qu'on lui servait.
3.
À la place de Mario, je n'aurais pas dit que je venais juste de me laver les mains.
4.
Il n'aurait pas dû arriver après 20 heures pour le repas du soir.
5.
Il n'aurait pas dû saluer tout le monde rien qu'avec un sourire et un bonjour.
6.
À sa place, je n'aurais pas fait un signe avec mes doigts comme quoi tout était correct, un motoriste qui s'arrêtait pour m'aider.
7.
À sa place, je n'aurais pas jeté de déchets sur le trottoir.
8.
À sa place, je n'aurais pas dû manger ce qu'il y avait dans mon assiette.
9. Aide-mémoire, partie D, cahier, page 12.
Écoutez l'émission radiophonique suivante intitulée « Bon voyage ». L'invité donnera des conseils concernant quoi mettre dans ses bagages quand on part en voyage. D'après les conseils généraux qu'il donne, révisez vos choix dans les parties A, B et C de l'activité.
Bienvenue à l'émission « Bon voyage ». Notre invité aujourd'hui est Marc Bourrivage. Monsieur Bourrivage est un expert en voyage. Il nous parle aujourd'hui de la difficile tâche de faire ses bagages.
Eh bien, Monsieur Bourrivage, quels conseils donneriez-vous à des jeunes ou à des adultes qui décident de partir en voyage pour 2, 3 semaines ou même un mois?
Tout d'abord, souvenez-vous que vous porterez votre sac à dos ou votre valise partout où vous irez.
C'est vrai, ça. Ce n'est pas tout le monde qui peut s'offrir d'engager des porteurs.
Et même si vous en aviez les moyens, il n'est pas toujours facile d'en trouver.
Alors, qu'est-ce qu'on doit emporter en voyage?
N'emporter que des vêtements confortables, et pas trop. Voici un bon truc pour réduire au minimum vos bagages. Étendez sur votre lit tous les vêtements dont vous pensez avoir besoin pour votre voyage. Ensuite, avant de les placer dans votre valise, enlevez-en la moitié. Puis, faites vos bagages et allez faire une petite marche avec votre valise. Si vous soufflez et devenez tout rouge après 10 minutes de marche, enlevez encore des choses de votre valise ou de votre sac.
C'est une bonne idée, ça. Mais qu'est-ce qui arrive si on n'est pas très fort ou en forme et qu'on aboutit avec presque rien dans sa valise? Il pourrait nous manquer des choses en voyage, non?
Plutôt que d'apporter tout ce dont vous avez besoin, apportez-vous un peu d'argent pour vous acheter ce qu'il vous manque. Ça vous fera des souvenirs utiles. Vous pourrez en profiter pour jeter ou même vendre vos vieux vêtements, ce qui renouvellera votre garde-robe.
Une autre bonne idée. Magasiner pendant le voyage plutôt qu'avant.
Ah oui, et vous verrez que les avantages de voyager avec des bagages légers surpassent de beaucoup l'inconvénient d'avoir une garde-robe plutôt limitée.
Est-ce qu'il faut s'apporter des vêtements pour tous les jours du voyage?
Non, pas du tout. Si vous faites cela, vous aurez besoin de la force d'Hercule pour transporter vos bagages sans vous fatiguer. Il faut prendre l'habitude de faire sa lessive en voyage. Par exemple, habituez-vous à laver vos sous-vêtements le soir avant de vous coucher et de les laisser sécher sur le bord de votre lit ou dans la salle de bain.
Qu'est-ce qu'on doit apporter en voyage en plus de ces vêtements?
Des produits de toilette, bien sûr. Si vous partez pour une courte durée, mettez tous vos produits dans de petits contenants. Ça prendra moins de place. N'apportez que le strict minimum. Vous n'allez pas en voyage pour faire des parades de mode ou pour vous faire photographier pour une revue de beauté.
Y a-t-il des accessoires qui sont utiles?
Oui, bien sûr. Apportez de quoi prendre des notes, de quoi faire de petites réparations à vos vêtements, de quoi prendre des photos, de quoi couper de la nourriture comme des fruits ou du pain, de quoi vous soigner, ainsi de suite.
C'est tout le temps que nous avons, Monsieur Bourrivage. Merci de tous vos bons conseils.
Ah, il n'y a pas de quoi. Bon voyage!
Sur place, activité supplémentaire, partie B.
Écoutez les dialogues suivants et trouvez où se passe chacun d'eux. Utilisez les choix de la partie A de l'activité sur place.
Dialogue numéro 1.
Au voleur! Au voleur!
Qu'est-ce qu'il y a, monsieur?
On m'a pris mon portefeuille.
Bon, allez là-bas et faites votre déclaration.
Mais vous ne faites rien! Vous ne courez pas après les voleurs?
Ça fait combien de temps qu'on vous a volé votre portefeuille?
Oh, 2-3 minutes. Devant la gare, à 2 rues d'ici.
Pensez-vous qu'ils sont encore là?
Non, probablement pas. Excusez-moi, je suis un peu énervé. J'avais tout mon argent dans mon portefeuille.
Vous n'auriez pas dû prendre de l'argent liquide avec vous. Les chèques de voyage, c'est bien plus pratique. En plus, vous devriez garder vos chèques et vos papiers dans une ceinture à la taille.
Oh, de bons conseils, mais un peu tard.
Dialogue numéro 2. Une entrée, s'il vous plaît.
C'est gratuit, madame.
Ah, bon, c'est merveilleux.
Malheureusement, ça ferme dans 10 minutes et je ne peux pas vous laisser entrer.
Oh, je veux seulement voir les peintures de la région. Je vais faire vite.
Non, madame, je regrette. Il faut revenir demain.
Allez, vous ne pourriez pas faire une petite exception. 5 minutes, c'est tout.
N'insistez pas, je n'y peux rien.
Oh là là, c'est pas possible. S'il pense que je vais revenir demain. Dialogue numéro 3.
Un aller simple pour Paris, s'il vous plaît.
Première classe?
Oui.
Ça fait 75 francs.
Voici.
Il vous revient 25 francs.
C'est quand le prochain train?
Dans une demi-heure, je crois. Les horaires sont affichés là-bas.
Merci.
Dialogue numéro 4.
Je me rends en France.
Votre billet et votre passeport, s'il vous plaît.
Voici.
Un siège au bord de la fenêtre ou au bord de l'allée?
Une fenêtre, s'il vous plaît, dans la section fumeurs.
Je suis désolé, monsieur. Tous nos vols sont maintenant non-fumeurs.
Ah, bon.
Voici, votre siège est A3. L'embarquement se fera dans 45 minutes à la porte 42. Vous avez combien de valises?
3.
Vous n'avez le droit qu'à 2 valises. Il faudra payer un supplément.
Est-ce que je peux apporter cette petite-là avec moi dans l'avion?
Oui.
Alors, c'est ça que je ferai.
C'est bien, monsieur. Bon voyage et bon séjour en France.
Dialogue numéro 5.
Votre passeport, s'il vous plaît.
Attendez une minute. Il est quelque part dans mon sac.
C'est écrit sur l'affiche qu'il faut sortir ses papiers avant d'arriver au comptoir.
Je m'excuse. Il était pourtant ici.
Allez, laissez passer les autres qui attendent et revenez quand vous l'aurez trouvé.
Attendez, je l'ai. Le voici.
Bon, tout semble être en ordre. Vous avez votre formule de déclaration?
Oui, la voici.
Vous n'avez pas dépassé votre limite. C'est bien, passez.
Ça vaut la peine. Livre, page 21.
Comparez votre liste de raisons d'apprendre le français aux raisons données par des jeunes dans la conversation suivante.
Dites-moi, quel bienfait voyez-vous à apprendre une autre langue et le français en particulier?
Bien, tu peux communiquer avec les personnes d'autres pays.
Tu apprends à connaître leur culture aussi.
C'est vrai ça. Le bilinguisme, ça aide à combattre le racisme, parce que tu comprends plus et tu connais les avantages d'une autre culture.
Ce n'est pas seulement ça. Ça ouvre l'esprit. Tu te rends compte qu'il y a des gens qui voient les choses d'une façon différente.
Pour le travail, c'est important aussi de connaître d'autres langues. Au Canada, c'est le français et l'anglais qu'il est important de connaître.
C'est vrai ça. On se plaint qu'il faut apprendre deux langues. J'ai un ami francophone en Belgique qui apprend l'anglais et l'allemand. On les encourage à l'école à apprendre le plus de langues possible.
Oui, en France aussi. C'est à cause des échanges commerciaux avec les autres pays de l'Europe et d'ailleurs.
C'est aussi pratique pour voyager. C'est plus facile de visiter un pays et de connaître un peu les gens si tu peux te débrouiller dans leur langue.
Oui. J'ai remarqué qu'ils apprécient beaucoup si tu peux dire quelques phrases ou même juste quelques mots dans leur langue.
Et qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent qu'apprendre une langue, c'est une perte de temps si on ne va pas s'en servir après?
Je pensais ça moi aussi avant, mais plus maintenant. Quand tu fais un effort pour apprendre une langue, tu vas essayer de lire des choses, par exemple, des articles de magazines ou des romans, dans cette langue. En faisant ça, tu apprends des choses.
C'est vrai. Même si tu oublies un peu la langue après que tu ne t'en sers plus, il y a des choses que tu as apprises que tu n'oublieras jamais.
Il n'y a donc pas d'inconvénient?
Ah oui, ça prend de l'effort.
Du courage, il faut mettre sa gêne de côté.
Mais ça vaut la peine.
C'est sûr.
Oui, ça vaut la peine.
On voyage pour apprendre. Partie A. Cahier, page 23.
Écoutez les annonces suivantes et remplissez les informations qui manquent dans le tableau de l'activité.
Annonce numéro 1.
Vivez une expérience unique. Apprenez à mieux vous connaître en apprenant à mieux connaître un autre pays. Participez à un des programmes d'échange d'AFS Interculture Canada. AFS Interculture Canada offre des programmes de 10 mois, des programmes d'un semestre ou des programmes d'été. Vous serez accueilli dans le confort et la sécurité d'une famille du pays que vous visiterez. C'est la meilleure façon d'apprendre rapidement une langue et d'absorber la culture locale. Le programme de 10 mois et d'un semestre vous offre la chance de vivre et d'étudier dans un autre pays. Vous irez à l'école secondaire dans ce pays. Le programme d'un semestre est le même que le programme de 10 mois,
mais s'adresse à ceux qui préfèrent un séjour plus court. Le programme d'été dure de 6 à 8 semaines. Il inclut des cours de langue ainsi que des activités récréatives. Alors, si vous avez entre 15 et 18 ans et êtes intéressé à vivre une expérience unique, n'hésitez pas à demander plus de renseignements.
Annonce numéro 2.
La CEVEC, Société éducative de visite et d'échange au Canada, offre une grande gamme de programmes d'échange et de visite éducative. Parmi les programmes qui s'adressent aux individus, mentionnons le programme d'échange individuel en été. La CEVEC procède au jumelage de deux étudiants qui doivent s'héberger à tour de rôle pendant l'été. La durée est déterminée par les participants. Chaque étudiant ou étudiante francophone exercera sa langue seconde avec son jumeau ou sa jumelle, vivra dans un milieu familial et communautaire différent et découvrira un univers culturel différent du sien. Alors, si vous avez entre 11 et 18 ans, n'hésitez pas. Si vous êtes de l'Ontario, vous pouvez aussi participer à des échanges de 6 mois pendant l'année scolaire. En effet, pendant 3 mois, vous pourrez poursuivre vos études secondaires au Québec et pendant 3 autres mois, vous recevrez votre jumeau ou votre jumelle du Québec chez vous. Alors, si vous avez entre 15 et 17 ans et voulez faire partie de cet échange, renseignez-vous auprès de la CEVEC.
Annonce numéro 3.
Les programmes internationaux d'échange étudiant de ASSE sont pour ceux et celles qui veulent connaître d'autres pays. En effet, l'Allemagne, le Japon, la France, la Suisse, la Thaïlande ne sont que quelques pays qui vous attendent à bras ouverts. Grâce à ASSE, vous pourrez, comme des centaines de jeunes, aller faire votre secondaire à l'étranger pendant 10 mois. Étudiez à l'étranger avec ASSE et faites l'expérience de la vie dans une autre culture, à la façon des gens du pays, pas comme simple touriste. Le fait de vivre dans une famille chaleureuse dans un pays étranger vous aidera aussi à apprendre la langue du pays. Si vous ne pouvez pas partir pendant 10 mois, ou si vous hésitez à vous engager pour une année scolaire à l'étranger, les programmes d'été de ASSE sont la solution parfaite. Pendant 4 à 8 semaines, vous prendrez part à la vie d'une famille d'un autre pays. Vous participerez aux activités quotidiennes de votre famille d'accueil et vous les accompagnerez pendant leurs vacances. Alors, si vous avez entre 15 et 18 ans, pensez-y bien. Avec ASSE, vous ne faites pas seulement partie d'un programme, vous faites partie d'une famille.
Annonce numéro 4.
L'Institut Montpelliérain d'études françaises accueille chaque année, de juin à septembre, des jeunes de 17 ans et plus, des étudiants et des adultes étrangers de toute nationalité, venus suivre à Montpellier des stages de langue et de civilisation française. Le programme comprend 21 heures par semaine de cours et d'activités pédagogiques. L'enseignement est complété par des expériences, des rencontres et des visites sur le terrain, ainsi que par un programme d'activités culturelles et de loisirs. L'hébergement est assuré en résidence pour étudiants. Les séjours sont de 2, 3 ou 4 semaines.
Annonce numéro 5.
Vous vous demandez ce qu'est Jeunesse Canada Monde? Eh bien, c'est un organisme privé, sans but lucratif, qui offre à des jeunes du Canada et de pays en voie de développement l'occasion de participer à des programmes d'échange éducatif internationaux. Ces programmes, d'une durée d'environ 7 mois, se font avec des jeunes d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine ou des Antilles. 3 ou 4 mois sont passés au Canada et 3 à 4 mois dans l'un des pays d'échange. Tous les jeunes de 17 à 20 ans sont invités, qu'ils soient travailleurs, étudiants ou à la recherche d'un emploi. Les participants sont généralement accueillis par groupes de 2, un Canadien et un du pays d'échange, par des familles intéressées à s'engager et à vivre une expérience interculturelle. Les participants s'intègrent à leur nouveau milieu en s'associant bénévolement à la réalisation de projets de travail dans des domaines tels que l'agriculture, les coopératives, le travail communautaire et les services sociaux. Les bénéfices sont nombreux de participer aux échanges de Jeunesse Canada-Monde. Vous aurez une idée plus précise des choix de carrière et d'études qui s'offrent à vous. Vous aurez une passion nouvelle pour l'avenir. Vous aurez une plus grande facilité à communiquer. Vous aurez une meilleure compréhension du monde dans lequel nous vivons. Et vous aurez la possibilité d'apprendre une ou deux nouvelles langues.
Expérience unique. Cahier, pages 26 et 27.
Écoutez les témoignages suivants. Il s'agit de témoignages de personnes qui ont vécu des expériences d'immersion dans la langue française. Écoutez-les et indiquez le nom de la personne qui a vécu chacune de ces expériences. Écrivez ensuite les informations demandées.
Je m'appelle Rona. J'ai passé 4 semaines fantastiques à Montpellier, en France. Je prenais 3 heures de cours de langue le matin. L'après-midi, on faisait une variété d'activités intéressantes qui nous permettaient de pratiquer davantage le français. Par exemple, une chose que j'ai vraiment aimée, c'était notre visite au studio Radio France. J'ai aussi aimé les films qu'on nous montrait tous les mercredis soirs et les excursions aux plages de la Méditerranée qu'on faisait 2 après-midi par semaine. Je me suis fait beaucoup de nouveaux amis provenant de plusieurs pays. La plupart de mes amis habitaient avec moi en cité universitaire.
Moi, c'est David. Je suis allé vivre chez mon oncle sur la Côte d'Ivoire pendant 1 mois. Mon père a un frère qui habite là-bas. Toute la famille parle français. Ça a été toute une expérience. Je parlais un peu français avant de partir, mais juste assez pour dire quelques phrases. Mes cousins ont été élevés là-bas. Ils vont à l'école française. Ils ne parlent pas l'anglais. Avant, je n'avais entendu parler français qu'à l'école. Bientôt, leur langue m'a paru moins étrangère et j'ai commencé à utiliser ce que je savais et à copier des phrases que j'entendais. J'ai aimé mon voyage. C'était la première fois que je visitais un autre pays. Tout était tellement différent dans ce pays d'Afrique. Les plages, la mer, le chant des oiseaux, les arbres, les lagunes, la végétation. C'est aussi bizarre d'entendre parler français dans ce décor. On a toujours l'impression, quand on étudie le français, qu'on finira par utiliser cette langue dans un café au pied de la Tour Eiffel ou pour demander des informations au Carnaval de Québec.
Je m'appelle Martha. Par l'intermédiaire d'une de mes tantes, j'ai réussi à avoir un emploi de vendeuse dans un marché de fruits et de légumes en Belgique. Ma tante me logeait chez elle et je gardais son kiosque de fruits et de légumes pendant la journée. Au début, elle était là, puis elle a commencé à s'absenter de plus en plus souvent. Je me retrouvais seule avec les clients. Au début, j'ai trouvé qu'ils parlaient tellement vite. Après, je me suis habituée. Je vous le dis, on apprend vite quand on est pris dans une situation de la sorte. Je ne regrette pas mon expérience cependant, mais il y a des fois que j'aurais pris le premier avion pour le Canada.
Moi, c'est Saul. Mon expérience en immersion, ça s'est passé à La Réunion. C'est une île qui se trouve dans l'océan Indien, juste à l'est de Madagascar. On y parle français et créole. Ma famille et moi, on était allés là-bas en vacances pendant l'été. J'étais le seul dans la famille qui avait pris des cours de français à l'école. Alors, imaginez qui a dû faire l'interprète. J'ai enfin vu l'utilité d'apprendre le français. J'ai travaillé beaucoup plus fort à mon retour. On ne s'imagine pas qu'on parle le français si loin du Québec et de la France.
Je m'appelle Anton. J'ai passé 2 semaines à Montréal pendant l'été. C'était un échange organisé par CEVEC. Mon jumeau est venu passer 2 semaines chez moi à Whitehorse pour apprendre l'anglais. J'ai franchement aimé mon voyage. La famille où j'ai habité était super et nous avons fait des choses différentes tous les jours. Je crois que vivre dans une famille est la meilleure façon d'apprendre une langue. On a vraiment l'impression d'apprendre des choses utiles. Et quand mon jumeau est venu chez moi, j'ai vraiment compris que nous, les anglophones, n'étions pas les seuls à se battre pour apprendre une autre langue. Je crois que mon ami avait plus de difficultés en anglais que moi en français. Nous sommes restés bons amis. Nous nous écrivons souvent.
En direct 2, unité 2, magazine, son et images. Qui sont-ils? Cahier, page 37.
Écoutez les parties d'entrevue suivantes et trouvez de quelle sorte d'artiste il s'agit dans chaque cas.
Première entrevue.
La chanson que nous venons d'entendre, c'est une de tes compositions, n'est-ce pas?
Oui, en effet. Je l'ai écrite il y a 2 ans. Je l'ai présentée à plusieurs groupes avant qu'un groupe veuille l'enregistrer.
Il y a longtemps que tu écris des œuvres musicales?
Oui, j'ai commencé quand j'avais 12 ans, juste pour le plaisir. Plusieurs années plus tard, j'ai commencé à montrer mes chansons à mes amis et ils les ont beaucoup aimées. Cela m'a encouragée à les présenter à différents groupes.
Deuxième entrevue.
Où avez-vous appris les techniques nécessaires pour votre art?
À l'école, au secondaire. J'avais un professeur intéressant qui était toujours prêt à aider les étudiants qui travaillaient fort. Il nous a montré les effets de la lumière, l'importance de la composition et comment développer les films.
Vous faites beaucoup de noir et blanc. Pourquoi?
Je trouve que les jeux de lumière produisent des effets sensationnels.
Vous faites beaucoup d'expositions?
J'espère en faire beaucoup, mais celle-ci est ma première.
Troisième entrevue.
Vous réussissez à vivre de votre métier?
Oui, je viens d'ouvrir une boutique où je vends les bijoux que je fabrique.
Quelle sorte de matériaux utilisez-vous?
Des métaux précieux comme l'or et l'argent, mais aussi de l'acier, du verre et même des objets recyclés.
Est-ce que vous aimez qu'on porte vos œuvres d'art?
Oui, bien sûr. J'aime bien voir mes bijoux sur les gens.
Quatrième entrevue.
Comment en êtes-vous venu à exercer ce métier?
Je crois que j'ai toujours été créatif. Quand j'étais jeune, je dessinais tout le temps, mais j'étais attiré vers la terre cuite.
Pourquoi la terre cuite?
Probablement parce que c'est un matériau naturel qui a subi très peu de transformations. J'adore la nature.
Faites-vous des objets pratiques?
Oui, je fais de la vaisselle, des pots à fleurs, des ensembles à thé. Je fais aussi des pièces purement décoratives.
Cinquième entrevue.
Est-il vrai que vous vous inspirez des formes de la nature?
Oui. D'après moi, un édifice doit être en harmonie avec le monde extérieur. Même en milieu urbain, je préfère intégrer des formes moins rectangulaires, moins solides. Il est trop facile d'oublier la nature.
et que considérez-vous comme important à l'intérieur?
Il ne faut surtout pas oublier qu'on crée un espace où des humains doivent habiter ou travailler. Il faut que l'environnement dans lequel se trouvent les gens soit fonctionnel tout en étant accueillant.
Sixième entrevue.
Quels sont vos projets?
J'aimerais produire un documentaire sur les étudiants du secondaire.
Est-ce que vous produisez normalement des documentaires?
Oui.
Pourquoi?
J'aime informer. J'avais pensé devenir journaliste, mais je crois qu'en faisant des documentaires, mon travail a beaucoup plus d'impact. Septième entrevue.
Comment en êtes-vous arrivé où vous êtes maintenant?
J'ai commencé très jeune. J'ai eu ma première guitare à 10 ans. Elle était presque aussi grosse que moi.
Vos parents vous ont payé des cours de musique rock?
Non. Ma formation a été complètement classique. Je suis même allé au conservatoire.
Alors vous avez souffert toutes ces années sans rien dire?
Souffert? Non, je n'ai jamais souffert. J'adore la musique. Toutes les sortes de musique. Je ne regrette aucune des longues heures de pratique de ma jeunesse. Mes parents ne m'ont jamais poussé, d'ailleurs. Je le faisais parce que j'aimais cela.
Alors, pourquoi faire maintenant carrière dans la musique rock?
J'aime le rythme. J'aime le fait que ça bouge. J'aime le fait que je n'ai jamais besoin de porter de cravate.
Huitième entrevue. Portez-vous les vêtements que vous dessinez?
Non, jamais. Les vêtements que je dessine sont pour les femmes qui n'ont pas peur d'être différentes, qui ne veulent pas passer inaperçues. Moi, je suis plutôt du type réservé.
Ces vêtements ne vous représentent pas alors?
Oui, d'une certaine façon, ils me représentent. C'est mon moi intérieur, mon moi que je ne montre à personne, le moi que je suis trop gênée de montrer, sauf dans ce que je dessine.
À l'écoute. Livre, page 39.
Écoutez l'émission radiophonique suivante et vérifiez si l'animatrice a donné toutes les informations que vous avez anticipées.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Super Musique sur les ondes de C'est toi FM. Je veux maintenant vous faire écouter une chanson que je suis sûre que vous allez aimer. C'est une chanson de Marie-Carmen. Mais avant de la faire jouer, laissez-moi vous rappeler qui est Marie-Carmen. Marie-Carmen est une Québécoise qui a mis beaucoup de temps à devenir une super vedette. Depuis qu'elle est toute jeune, elle joue à l'artiste. Enfant, elle chantait tout le temps, même quand on lui disait de se taire ou qu'elle chantait mal. Personne dans sa famille ne chantait, même pas sa sœur jumelle. Sa principale influence a été une de ses sœurs qui est comédienne. C'est sans doute pourquoi Marie-Carmen a longtemps pensé à faire du théâtre. Mais elle était vraiment destinée à la musique. Les pièces dans lesquelles elle a joué étaient d'ailleurs des pièces musicales. Elle fait partie du monde de la musique québécoise depuis la fin des années 70. Seulement 50 000 copies de son premier album solo se sont vendues en 2 ans et demi. Cependant, les fans s'arrachent son tout nouvel album « Miel et venin ». Enfin, le succès pour Marie-Carmen. Écoutons donc, sans plus tarder, la chanson thème de l'album « Miel et venin ». des artistes en herbe. Cahier, page 43.
Écoutez les entrevues suivantes avec les artistes présentés à l'activité « Des artistes en herbe » et vérifiez si vous avez bien complété chaque profil.
Récemment, se tenait une exposition d'art visuel pour jeunes talents. Les participants étaient des jeunes de 14 à 20 ans. J'en ai interviewé quelques-uns. Écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Bonjour, Richard. Je vois que tu t'adonnes à la peinture. Comment t'es venu ce goût de la peinture?
Eh bien, j'ai commencé à faire du dessin. Puis, j'ai rajouté de la couleur. Je faisais surtout des bandes dessinées. Et peu à peu, j'ai ressenti le besoin de faire d'autres choses. Je voulais exprimer mes émotions. J'ai donc décidé de prendre des cours de peinture.
Est-ce que tu as aimé ça, prendre des cours de peinture?
Oui, on m'a appris à utiliser des techniques que je connaissais pas. Et j'ai appris à apprécier différentes formes de peinture.
Qu'est-ce que tu aimes le plus peindre?
J'aime peindre des scènes de la vie de tous les jours, comme à l'école, dans la rue, etc.
Tu ne trouves pas ça difficile de peindre exactement ce que tu vois?
Je n'essaie pas de rendre à la perfection ce que je vois. Mes peintures ne sont pas comme des photos. J'essaie seulement de rendre l'ambiance d'un moment ou d'un événement.
As-tu l'intention de continuer longtemps à faire de la peinture?
Je pense continuer aussi longtemps que cela m'amusera.
Veux-tu devenir peintre professionnel?
Non, pour moi, c'est un passe-temps. Je songe plutôt à devenir architecte.
Merci et bonne chance. Je m'entretiens maintenant avec Julia Lee. Julia produit des vidéos. Bonjour, Julia.
Bonjour.
Dis-moi, Julia, quand as-tu fait ton premier vidéo?
Il y a 2 ans. J'avais des amis qui jouaient de la musique dans un groupe. Ils voulaient se faire connaître, mais ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils m'ont demandé de les filmer. J'ai emprunté la caméra vidéo de mes parents et je les ai filmés pendant un spectacle à l'école. Je me suis beaucoup amusée et le groupe utilise maintenant le vidéo comme publicité.
Quelle sorte de vidéo fais-tu présentement?
Ce sont des vidéoclips, comme on en voit à la télé. Ils ne sont pas aussi bons, bien sûr. Je prends une chanson et j'essaie de l'illustrer.
Comment fais-tu cela?
Bien, j'utilise un mélange de séquences que je filme un peu partout, dans la rue, à l'école, et des images que je trouve dans les magazines ou ailleurs.
As-tu pris des cours?
Non, pas jusqu'à maintenant. Oh, mais j'aimerais bien apprendre à manipuler des images par ordinateur.
À ton avis, quelles sont les grandes qualités d'une réalisatrice de vidéo?
Avant tout, il faut de l'imagination. Il faut rêver en couleur et avoir la volonté de réaliser ses rêves.
Julia, merci et bonne chance dans la poursuite de tes rêves.
L'entrevue qui suit correspond à l'activité complémentaire suggérée.
Je vais maintenant m'entretenir avec Sarah Miville, qui fait de la sculpture. Bonjour, Sarah. Comment décrirais-tu tes sculptures?
J'aime créer des formes abstraites qui sont esthétiquement agréables à regarder.
Qu'est-ce que tu utilises comme matériaux?
J'utilise des pièces de métal que je soude ensemble.
As-tu essayé de faire des sculptures avec d'autres sortes de matériaux?
Non, pas encore. Mais je songe à faire des sculptures qui vont utiliser plusieurs matériaux à la fois, comme une combinaison de plastique, de pierre et de métal. Je suis sûre que je pourrais parvenir à faire quelque chose d'intéressant.
As-tu l'intention de devenir sculpteur professionnel?
Je dois y réfléchir. Mon professeur d'art m'a conseillé d'aller à l'école des beaux-arts et d'essayer d'autres formes d'art pour être sûre que c'est celle-ci que je préfère. J'hésite cependant à faire des études en art.
Pourquoi?
Je ne sais pas. En ce moment, je m'amuse beaucoup à faire de la sculpture, mais je ne sais pas si je m'amuserais autant si j'étais professionnelle. Je ne sais pas non plus si je pourrais me résigner à vendre mes œuvres et ne plus jamais les revoir. Ça serait comme vendre un peu de moi, vous comprenez?
Eh bien,
Je suis sûr que tu ne prendras pas ta décision à la légère. Bonne chance et félicitations pour ton beau travail.
Merci.
Des entrevues. Livre, pages 45 à 47.
Voici la chanson « Ma musique est cassée » par Amina.
Fatigue-toi, vérité, c'est juré. Wow, 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 wow.